Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
Et toute l'actualité à 8h ce samedi matin, c'est avec Amandine Bégaud. Bonjour Amandine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et c'est donc l'info de la nuit. La France annonce avoir tué le chef d'Acme Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Abdelmalek Droukdal, c'est son nom, neutralisé par les forces françaises dans le nord du Mali, non loin de la frontière avec l'Algérie. L'annonce a été faite tard hier soir sur Twitter par Florence Parly, la ministre des Armées, qui évoque un succès majeur dans ce combat pour la paix et la stabilité dans la région. Acme est en effet à l'origine de nombreux attentats meurtriers au Sahel, de l'enlèvement aussi de plusieurs ressortissants français ces dernières années. On se souvient notamment des otages d'Arlit, parmi eux Françoise Laribe. Elle a passé 5 mois aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, son mari plus de 3 ans. Écoutez sa toute première réaction ce matin en apprenant la nouvelle.
Il n'est plus là, et tant mieux si la paix revient. Si ça peut libérer et faire avancer les choses au Mali, si ça peut aider à ce que la paix soit revenue, hein, peut-être que je suis optimiste, mais je voudrais l'être. Voilà l'effet que ça peut me faire. Voilà, il n'est plus là. Et puis, non, écoutez, je ne peux pas, c'était quelqu'un d'impitoyable.
L'émotion l'a retenue aussi de cet ex-otage, Françoise Laribe, jointe ce matin pour RTL par Patrice Thomas.
Aux États-Unis, une nouvelle journée d'hommage à George Floyd.
La cérémonie en Caroline du Nord, là où il était né. Des rassemblements sont également attendus à Miami, New York, mais aussi à Washington, aux abords de la Maison Blanche. La mobilisation pourrait y être très forte. Qui plus est, après ces déclarations, cette nuit de Donald Trump, le président américain a évoqué, je cite, « un grand jour pour Floyd, un grand jour pour l'égalité », alors même qu'il présentait de bons chiffres du chômage, ça, vous l'imaginez, susciter un tollé là-bas. En France, les 2 rassemblements prévus aujourd'hui devant l'ambassade des États-Unis à Paris ont été interdits par la préfecture de police au nom de l'état d'urgence sanitaire. Plusieurs milliers de personnes, entre 3 et 5 000, ont en revanche manifesté hier soir à Strasbourg, reprenant le slogan scandé outre-Atlantique. Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Un slogan qu'on entend de plus en plus ici en France, et ces manifestations sont suivies de très près par l'Élysée, même si Emmanuel Macron reste discret sur la question, William Galibert.
Oui, pas un mot, pas un tweet, pas de communiqué ni de propos rapportés par des proches. Depuis le premier rassemblement de mardi, la réponse de l'Élysée est toujours la même. Pas de commentaire à ce stade, répète son entourage, avec parfois un brin de crispation. Mais on ne peut pas attendre du président qu'il parle sur tout et tout le temps. Ça, Gaston en coulisses. Et on nous rappelle qu'Emmanuel Macron est attentif à la situation, mais qu'il faut se tourner vers le ministère de l'Intérieur ou vers la garde des Sceaux pour en discuter pour l'instant. En clair, le président s'exprimera quand bon lui semblera. Il doit éviter de faire chauffer la cocotte minute sociale, estime un conseiller de l'exécutif. Idem pour la situation internationale. Après les images en provenance des États-Unis, pas de déclaration officielle. Les diplomates qui l'entourent assurent que le chef de l'État a toujours dit franchement les choses à ses homologues étrangers. Mais depuis la mort de George Floyd, et malgré les jours qui ont suivi, Emmanuel Macron et Donald Trump ne se sont toujours pas parlé au téléphone.
William Galibert du service politique de RTL. Dans l'affaire Traoré, sachez que la justice a annoncé hier de nouvelles auditions, celles de 2 témoins clés. La personne notamment chez qui le jeune homme décédé en juillet 2016 s'était réfugié après avoir échappé à une première tentative d'interpellation. Le parquet de Paris a, lui, de son côté, décidé l'ouverture d'une enquête après la révélation de messages racistes publiés sur Facebook dans un groupe réunissant des membres des forces de l'ordre.
Sur le front du coronavirus, Amandine, l'heure des retrouvailles.
Oui, avec le premier week-end sans la fameuse limite des 100 km. Dans une interview au Parisien aujourd'hui en France, la directrice générale d'Air France annonce une reprise progressive des vols. Elle table sur un trafic de 15% par rapport à la normale d'ici à la fin du mois de juin. On est actuellement à 5%. La compagnie, comme tout le secteur aérien, durement frappé par cette crise. Les entreprises de sûreté aéroportuaire réclament ce matin un coup de pouce du gouvernement.
Nous avons connu une baisse d'activité de 90%, qui est commune à tout le secteur de l'aérien sur le mois d'avril, avec une tendance similaire sur le mois de mai et une légère reprise qui débute en juin. Nous sommes très fortement impactés, avec près de 90% de nos salariés en chômage partiel. Alors, le secteur de la sûreté aéroportuaire, c'est 10 000 salariés en France. Bien sûr, aujourd'hui, notre priorité, c'est de préserver l'emploi. Aujourd'hui, ce que nous demandons pour pouvoir assurer la pérennité du dispositif de sûreté en France, c'est de pouvoir continuer à bénéficier de la prise en charge de l'indemnité de chômage partiel à 100%. 80%, ça c'est indispensable. Et au-delà de ça, nous demandons au gouvernement qu'il assure la continuité de la taxe de sûreté. Aujourd'hui, il n'y a plus de passagers, donc il n'y a plus de taxe de sûreté, plus de financement de la sûreté.
Jean-Baptiste Tello, le président du syndicat des entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire, il était au micro RTL d'Arnaud Touche, touché aussi plus largement le secteur du tourisme, c'est le cas ici en France, en Tunisie aussi, où 400 000 emplois sont aujourd'hui menacés. Le pays a décidé de rouvrir ses frontières à la fin du mois de juin. Résultat, eh bien dans les hôtels, on s'active. Illustration à Hammamet, où vous êtes rendu pour RTL, Mathias Reynal.
Ces dernières semaines, Mehdi Alani, le patron de l'hôtel Le Sultan, s'est senti bien seul.
J'étais le gardien du phare parce que moi j'habite dans l'hôtel. Aujourd'hui, le fait de voir mes équipes travailler, ça me donne chaud au cœur. Donc...
C'est désormais le commandant d'un navire en pleine effervescence. À 24 heures de la reprise, ça s'active en coulisses. Samia fait la plonge. Il n'y a qu'une chose qui a changé, dit-elle. Maintenant, tout le monde porte un masque. L'hôtel a dû s'adapter à la pandémie.
Par là, on va faire la désinfection des bagages. Ici, on prend la température des clients.
Tout a été pensé pour la réouverture de l'hôtel, mais l'espace Schengen reste, lui, désespérément fermé. Pour Mehdi Alani, il est clair que l'Europe cherche à protéger ses pays touristiques, comme l'Italie ou l'Espagne.
Les touristes français, eux, nous envoient des témoignages de sympathie, ils ont envie de venir quotidiennement. Donc mon message s'adresse vraiment aux politiques européens et français en particulier.
La course contre la montre est lancée pour sauver la saison. On part déjà avec une longueur de retard, confie le patron.
Ah, Mehmet en Tunisie, le reportage de Mathias Reynal pour RTL.
Et puis, preuve que ce déconfinement se précise, Amandine, certains petits chanceux ont pu assister hier soir à leur premier concert depuis presque 3 mois.
Oui, c'était à Albi, alors un concert un peu particulier hein, quand même, puisque les spectateurs étaient priés de rester dans leur voiture, Patrick Hisson.
Oui, c'est dans une ambiance très surprenante que s'est ouvert le premier concert drive organisé dans notre pays.
Un maximum de klaxons et d'appels de phare pour Boulevard Désert.
Sylvain Dutu est le chanteur de Boulevard Désert.
On en a fait des trucs. Et puis on pensait pas ça. On pensait pas être à Albi ce soir devant un parterre de voitures. En tout cas, on est très heureux d'avoir répondu présent à cette invitation.
D'abord assis dans leur voiture, branchés sur la fréquence dédiée au concert, les spectateurs sont progressivement sortis tout en restant à proximité ou en montant sur le toit de leur véhicule.
On a du mal à rester dans les voitures. On a envie de partager, de bouger, de sauter.
C'est mon premier concert de toute ma vie.
On savait pas trop à quoi s'attendre. Et là, en plus, il fait nuit. Il y a toutes les lumières, les klaxons. C'est beau. C'est sympa.
Pour Boulevard Désert, qui a participé bénévolement à ce concert drive, le pari est réussi.
De retrouver les gens, de retrouver cet échange avec les gens, qui était différent forcément de la tournée des Zénith qu'on a connue. Mais en tout cas, d'avoir une réponse, comme tu peux l'entendre, aux paroles qu'on lançait sur scène, ça a fait plaisir de retrouver les gens.
Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan.
Le concert drive de Boulevard Désert hier soir à Albi avec Patrick Hisson, c'est pas mal comme concept.
Sympa, ouais.
Hein, bon, sachez, dans une série plus soft, on va dire, que le château de Versailles lui rouvre ses portes aujourd'hui. Même chose pour le zoo de Vincennes. 62 bébés y ont vu le jour pendant le confinement. Des manchots, des suricates et même des flamants roses.
Vous parliez, Amandine, du château de Versailles. C'est le jardinier en chef, monsieur Baraton, qui sera tout à l'heure l'invité du journal Inattendu avec Vincent Parisot. Le rendez-vous RTL, c'est 12h30, 13h30. À tout à l'heure, 9h, Amandine. RTL.fr, l'actualité quand vous le souhaitez, évidemment. On a Vincent qui nous écoute depuis le Vaucluse. On le salue, il a un très beau ciel bleu ce matin. On a Elisabeth qui est fan de nous en Seine-et-Marne,
comme
sous un ciel gris. C'est dingue quand même que des gens soient fans de vous,
oui,
Valérie.
Mais oui, mais parce qu'ils ne me connaissent pas très très bien. Donc je fais illusion encore.
Les courses, il y aura 14.